France Inter.
L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Alaume à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Guillaume Fischeux à la console. Incontournable, indispensable, sorte de poisson pilote souvent méconnu, c'est pourtant vers lui qu'il faut se tourner lorsque l'on cherche à comprendre notre vie mentale.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Pourquoi le cerveau ? Pourquoi s'intéresser au cerveau lorsque l'on s'intéresse non pas directement au cerveau, mais qu'on cherche à comprendre notre vie mentale ? Pourquoi le cerveau ? Il s'agit d'une question qui ne va pas de soi, et pour essayer d'y répondre, j'aimerais commencer ce matin par examiner, pour les écarter ensuite, deux premières réponses extrêmes qui illustrent l'ambivalence parfois suscitée par les neurosciences cognitives. La première de ces réactions pourrait porter le nom de « cervolatrie ». Certains discours semblent concevoir les sciences du cerveau comme l'alpha et l'oméga de la connaissance de soi, presque une sorte de messianisme moderne laïque dont l'avènement rendrait caduques les anciens cultes, les anciens discours, psychologie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, des pans entiers des sciences humaines et sociales, voire de la philosophie, tout cela serait à remiser au rang de vestiges sur les étagères du musée de l'histoire de nos velléités à tenter de nous connaître.
Ni adoration, ni rejet radical, on l'aura compris, c'était Lionel Nakache, neurologue à la Pitié Salpêtrière. Hier à Paris, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et professeur à Sorbonne Université. Lionel Nakache est l'auteur de chroniques tenues sur France Culture entre 2023 et 2024, chroniques enrichies et désormais réunies dans un livre intitulé « Sujet, es-tu là ?» publié chez Odile Jacob. Le hasard fait vraiment bien les choses parce que figurez-vous que Lionel Nakache est l'un des deux invités de l'heure philo. Ainsi que le philosophe Nathan Devers, au parcours déjà fort riche malgré son jeune âge. Nathan Devers était venu ici même au moment de la parution de, alors c'est pas vraiment des mémoires, c'est pas non plus un roman, ça tient un peu des deux, on va dire que c'est un essai. Penser contre soi-même, tel en est le titre, le livre est sorti chez Albin Michel. Lionel Nakache, le point de départ de votre réflexion est scientifique, mais on se dit que très vite, les questions que vous posez sont philosophiques.
Elles sont assez rapidement, vous avez raison, et parce que la première chose, c'est que les questions qui m'intéressent, moi, dans le fonctionnement cérébral, ce ne sont pas tellement les questions qui ont trait à la motricité, à l'olfaction, à l'audition, etc., mais directement à ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc la vie mentale, la vie de l'esprit. Et donc, évidemment, nécessairement, lorsque vous vous intéressez aux bases biologiques, aux bases cérébrales de la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas ignorer, même c'est ce qui vous motive, de vous intéresser à l'esprit lui-même. Et peut-être un des aspects qui peut expliquer ma démarche, c'est que, à vrai dire, je m'intéresse au cerveau, pas tellement pour le cerveau, mais pour l'esprit. C'est-à-dire que je pense que souvent, lorsqu'on emprunte un détour, on a une question de psychologie ou de philosophie de l'esprit, et bien lorsqu'on passe, si on appelle ça le territoire du mental, si on essaye de voir comment cela se passe dans la carte du cerveau, donc la carte cérébrale, souvent ça ne va pas simplement éclairer le mental, mais ça va souvent vous transformer votre compréhension du phénomène mental considéré de la mémoire, du langage, de la conscience. Donc vous avez raison, je ne suis pas philosophe, mais disons que je suis assez proche de la philosophie parce que ça...
Vous n'êtes pas loin. Alors, il y a des contraintes neurobiologiques d'un côté, et puis il y a les déterminismes sociaux de l'autre, et vous dites que votre fil rouge, c'est de vous être intéressé à la fois, je vous cite, à la manière dont nous vivons subjectivement et à l'étude objective de cette subjectivité.
Absolument. Je crois que c'est le fil rouge qui caractérise mon approche. Peut-être c'est à la fois de m'intéresser à la subjectivité. Donc, en réalité, ce que j'entends par subjectivité, c'est la vie mentale consciente, le flux de notre conscience.
C'est le cinéma intérieur.
C'est le cinéma intérieur.
Parce que vous aviez écrit il y a quelques années un livre intitulé « Le cinéma intérieur ».
Absolument, et dont nous avions parlé. Et en fait, c'est que nous sommes caractérisés par une sorte de ce que le philosophe William James appelait le flux de la conscience, le conscious stream. Et en fait, c'est-à-dire que c'est tout le temps en mouvement. On pourrait appeler ça cette expérience à la première personne, ce que nous sommes capables de nous rapporter de nous-mêmes, l'image, la représentation que nous avons de nous, de vous, du monde, du fil des choses, eh bien, c'est ça l'objet de mon intérêt, de mes recherches, et d'essayer d'étudier comment produire un discours objectivant sur ça. Et c'est ça, donc cette tension entre du subjectif et de l'objectif.
Et est-ce que c'est la tension entre la glace et le feu ? C'est-à-dire la glace qui serait du côté de l'objectivité et le feu du côté de la subjectivité ?
Exactement. Et moi, la tension qui me fascine, qui me passionne, dans ma recherche, dans l'écriture, dans beaucoup d'aspects, et même dans la médecine en réalité, c'est de maintenir, d'essayer de maintenir active cette tension entre, voilà, vous l'avez dit, entre ce feu de la subjectivité et aussi la glace de l'objectivité, parce qu'on voit très bien qu'il y a deux écueils possibles. Soit on peut ne pas respecter cette tension, et dans ce cas-là, on pourrait dire avec cette métaphore que si le feu éteint, si le feu fait fondre, fait évaporer la glace, eh bien vous restez dans une sorte de narcissisme subjectif qui se contemple le nombril tout le temps. Si à l'inverse, vous passez vers une sorte de scientisme réductionniste dans lequel vous éteignez, ou en tout cas vous feignez d'éteindre, vous pensez avoir éteint votre subjectivité pour garder une sorte d'objet massif qui serait affranchi de la subjectivité, ce qui est impossible, eh bien, on a dans ces deux écueils. Donc, soit être tout subjectif, soit au contraire effacer pour être une sorte de créature unidimensionnelle, purement objectivante. Et moi, ce que je trouve fascinant dans l'existence, c'est d'essayer de maintenir en coexistence ce feu de notre subjectivité et la capacité à pouvoir sortir de soi-même et à pouvoir, dans certaines conditions, produire, créer une sorte de poésie, de création d'un discours objectivant qui s'affranchit de ma poésie, de ma subjectivité. Et là, c'est là qu'il y a pour moi une dimension presque poétique de la science, c'est de pouvoir, en créature subjective, produire quelque chose qui va en sortir, qui va ensuite s'en affranchir. Voilà, mais de respecter ces deux termes, les mettre en coexistence.
Nathan Dever, une question qui est centrale, je crois, pour vous, c'est comment on se forge une pensée, comment on se forge des convictions, comment s'élabore le raisonnement et au fond, comment on devient soi.
Exactement. Et sur ce point, Lionel, qui est aussi mon père...
Oui, je ne vous ai pas présenté, excusez-moi. Non, mais c'est... Vous étiez déjà vu, non ?
On s'est déjà vu.
On s'est déjà rencontré quelques fois. M'a transmis une chose, de par son parcours et sa recherche, qui est la nécessité de faire une physique de la philosophie en un sens, c'est-à-dire de comprendre que l'esprit ne naît pas de la raison, d'une conceptualité pure, d'une abstraction complètement détachée de toute expérience, décharnée, mais au contraire, qu'elle naissait à partir du cerveau, mais plus largement de la chair. Et ça veut dire quoi de la chair ? Ça veut dire d'une expérience, comme tu l'as dit, vécue en première personne. Et je crois que dans la trajectoire philosophique, dans la quête philosophique, cette dimension de première personne, elle est centrale. La philosophie, longtemps, elle a été un genre très voisin de la littérature, chez Platon, chez Descartes, avec un genre, vous avez dit, qui est un peu difficile à nommer. Est-ce qu'on parle d'essai ? Est-ce qu'on parle de traité ? Est-ce qu'on parle de récit ?
Là, vous parlez de penser contre soi-même.
Exactement.
Et puis, livre que vous avez écrit.
Exactement. Et puis, plus largement, même de l'écriture même de la philosophie, où on est à la fois dans la rationalité, dans la construction de concepts, d'une théorie, etc. Et en même temps, avec une part de narration, c'est-à-dire de vécu, d'expérience construite progressivement. Et cette dimension, elle me semble très importante, parce qu'elle suppose, en fait, de faire le deuil de l'idée d'une vérité absolue. Pendant très longtemps, la philosophie a une sorte de complexe d'infériorité par rapport à la science. Et ça, on le retrouve vraiment chez quasiment tous les philosophes classiques, chez Kant, de manière flagrante, la philosophie comme science ratée. C'est-à-dire comme discipline qui, comme les sciences, manie des concepts, fait des démonstrations, donne l'impression d'une sorte de rigueur, de technicité, et qui en même temps s'inscrit dans une sorte de relativisme total des vérités. Avec la philosophie, vous pouvez démontrer une chose et son contraire. Vous pouvez démontrer que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Alors qu'en science, on ne peut pas dire que 2 et 2 font 4 et qu'ils font 8 en même temps. Et il me semble que ce deuil de la vérité absolue, donc d'assumer la relativité, la fragilité, la petitesse de l'expérience de chacun, c'est absolument pas du narcissisme. Il ne s'agit pas de dire aux philosophes ou aux chercheurs en philosophie « racontez votre life, racontez votre vie », etc. Au contraire, c'est précisément dites d'où vous parlez, dites comment se sont construits les questionnements et les réponses, ou en tout cas les théories que vous avez construites.
Ah ben c'est précisément, et là vous me permettrez, Lionel Lacache, de faire une parenthèse autobiographique avec votre fils, avec Nathan Dever. Parce qu'il est important quand même de savoir précisément d'où vous parlez. Parce que dans ce livre « Penser contre soi-même », vous racontez, ce sont déjà des mémoires dans une vie bien courte, hein, vous avez moins de 30 ans, vous avez quoi ? Vous n'avez pas 30 ans, même pas ?
Oui, moins. Oui.
Moins, bon voilà. c'est qu'il y a eu à un moment donné une vraie rupture dans votre vie et un projet plutôt heureux qui devait être... Donc vous étiez destiné, je ne sais pas si on peut dire destiné, mais en tout cas à devenir rabbin, et tout à coup, vous avez bifurqué.
Oui, exactement. La question que j'ai voulu poser dans ce livre, c'est qu'est-ce que la philosophie, Mais pourquoi consacrer sa vie à la philosophie? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir faire de la philosophie? Autrement dit, qu'est-ce que philosopher, le verbe philosopher? Et cette question, j'ai voulu essayer, non pas d'y répondre, mais en tout cas de raconter en première personne comment, pour ma part, ce qui avait pu m'amener, ce qui avait pu éveiller en moi le désir de philosopher. Je crois qu'on peut résumer la chose de la manière suivante. Personne, ni parmi nous trois, ni parmi les gens qui nous écoutent, personne n'a choisi son identité. Personne n'a choisi d'exister ou de ne pas exister. Personne n'a choisi le point par lequel nous atterrissons dans le monde. Personne n'a choisi ses parents aussi. Personne n'a rien choisi de tout ça. En soi, c'est pas du tout un problème. Le sujet est que, évidemment, notre identité nous conditionne aussi intellectuellement. Et que toute la phase de l'enfance, et quand je dis ça, je parle pas tellement de la période de la vie, mais je parle du fait que, existentiellement, notre formation au monde, notre gestation intellectuelle, c'est une pensée qui s'écrit dans notre tête, sans qu'on soit responsable absolument de son écriture. Et donc, il me semble que cette première manière de penser, qui est une manière, en fait, où quand on pense, on n'est rien d'autre que le porte-voix de détermination qu'on a reçue, d'habitus qui nous ont été transmis, de tendances qui nous ont été presque, qui ont été implantées en nous, presque à la manière d'une intelligence artificielle. Quand on fait ça, évidemment, on fait un travail de l'esprit. Mais on ne pense pas. On donne l'illusion de penser. Mais c'est pas de la pensée. Et très souvent, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais très souvent, aussi bien dans le débat public que dans la théorie, on a l'impression, on a l'illusion de produire quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Et en fait, on ne fait que se faire travailler par son identité en un sens. Et il me semble que l'aspiration fondamentale de la philosophie par rapport à toutes les autres disciplines intellectuelles et par rapport à toutes les autres traditions spirituelles ou traditions du savoir, c'est ça. C'est ce que Hegel appelait le travail de la négation, l'aspect libre de tout intellect, c'est-à-dire la volonté utopique, parce que c'est impossible. Personne ne peut dire « je suis philosophe » au sens de « je me suis arraché à mon identité ». Mais la volonté d'essayer, quand on questionne, de ne pas questionner en étant seulement mu par ce qui s'est implanté en notre esprit, mais en essayant de penser à rebours de la manière dont l'être s'est constitué en nous. Et en un sens, vous savez, la philosophie occidentale a été fondée sur cette grande phrase présocratique que l'être et la pensée sont le même. En un sens, on pourrait presque dire l'inverse, que la pensée va à rebours de l'être.
Mais vivre à rebours, penser à rebours, c'est pas du gâteau. Sortir de la caverne, pour reprendre l'image de Platon, ça fait mal.
Oui, premièrement, il me semble, une forme de violence qui est véritablement consubstantielle de la philosophie. Ce qui ne veut pas dire que la philosophie ne peut pas apporter après, en télos, en horizon, en but, une forme de bonheur, mais de bonheur difficile, pas un bonheur du confort intellectuel. Le principe, le béaba, la condition de possibilité, je crois, de la démarche de philosopher, c'est quand même une forme d'arrachement. Et ça, en effet, Platon l'a théorisé dans le mythe de la caverne, dans d'autres textes, dans des textes où il compare le philosopher à l'accouchement, dans le Théétète par exemple, mais je crois qu'on le retrouve en fait chez absolument tous les philosophes. On le retrouve chez Heidegger, quand il rappelle que le mot « vérité » en grec, « aletheia », est un mot négatif. C'est pas un mot positif, c'est « a », plus loin, « l'étheia », c'est-à-dire le contraire de l'oubli ou de la non-pensée, etc. C'est-à-dire que ce qui est premier dans l'existence et dans l'être, c'est pas la vérité. C'est le contraire de la vérité. On peut appeler ça l'oubli de l'être avec Heidegger, on peut appeler ça l'illusion, on peut appeler ça l'identité, on peut appeler ça comme on veut. Mais en tout cas, c'est le contraire du philosophé. Et que le philosophé naît véritablement d'un arrachement, d'une violence, d'une volonté, si vous voulez, sinon de s'auto-éduquer, ça ce serait une sorte de mythe. Je n'y crois pas que l'individu puisse être, si vous voulez, son propre fondement et une sorte de cause de soi-même. Mais en tout cas, de prendre une certaine forme de distance par rapport à la manière dont l'esprit s'est auto-constitué. Ensuite, ça ne se veut absolument pas dire renoncer à toute transmission, renoncer à tout héritage, absolument pas. Mais c'est peut-être d'ailleurs la seule manière de recevoir de manière authentique un héritage ou une transmission parentale, intellectuelle, philosophique, c'est en commençant par ne pas, si vous voulez, le recevoir de manière automatique.
Lionel Nakache, au fond, c'est un projet un peu fou que de vouloir se connaître, non ?
C'est un projet fou, mais c'est un projet, je dirais presque irrépressible, en fait, qui est proche vraiment, qui est extrêmement intrinsèque, je trouve, à la nature humaine. Et en écoutant et rebondissant sur ce que vous disiez Nathan, et comme dans cette dimension un peu familiale qui était évoquée, en écoutant Nathan aussi ce que je me disais profondément, il évoquait ce thème de la transmission, c'est qu'en réalité, il y a une dimension, notamment dans son livre, dans Penser contre soi-même, qui fait écho aussi d'une certaine manière. Il y a une troisième personne qu'on pourrait évoquer, qui est ma femme Karine, qui est sa mère. Et en fait, Karine et moi, sans rentrer dans une histoire familiale, on est très attachés à cette idée d'une forme de liberté de l'individu. Mais c'est-à-dire d'une construction. Évidemment, chacun va avoir son trajet, sa trajectoire, mais avec cette tension d'essayer de construire une liberté qui ne soit pas une forme, disons, de prison, c'est-à-dire, je m'explique, une liberté qui ne se construit pas en opposition à quelque chose. Et on a un peu l'impression, réelle ou fausse, que indépendamment, elle et moi, on a essayé d'élaborer quelque chose comme ça. Et donc, voir Nathan, qui emprunte sa trajectoire, et on peut rappeler que dans cette trajectoire que vous avez évoquée, à la fois le premier temps de la trajectoire de devenir rabbin extrêmement érudit, c'était aussi son propre moteur. C'était pas quelque chose que nous avons impulsé. Et donc de pouvoir le voir.
Ça correspondait, ça pouvait correspondre à ce que vous pensez, à ce que vous croyez.
C'est-à-dire qu'on est une famille juive, on s'intéresse à la tradition juive, etc., sans être dans une pratique non plus qui soit une pratique extrêmement investie. Mais ce premier temps qui était un temps aussi extrêmement intense chez Nathan, c'était un temps qui provenait de Nathan. Voilà. Et ce que je veux dire par là, que il est très important, et en l'écoutant, en t'écoutant, que cette c'est toujours très difficile d'arriver à essayer de promouvoir une forme de parcours le moins contraint, le plus libre possible, sans que cette liberté en fait soit asservie à une réaction, à une opposition, à quelque chose. Voilà, être se libérer de sa famille, etc. Et donc voilà. Et de ce point de vue-là, on a l'impression voilà que cette trajectoire-là, la dimension réussie, je parle au nom de Karine aussi, c'est une forme de trajectoire dont la tentative de libération n'est pas une libération en opposition à quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair.
Très clair. Vous écoutez L'Heure Philo sur France Inter, le neuroscientifique et neurologue Lionel Nakache et le philosophe Nathan Devers sont nos invités. À partir donc du cerveau de la conscience, nous avons beaucoup de sujets encore à aborder, tels que le temps, la mémoire, le racisme, l'empathie, je ne sais pas si on aura le temps de tout ça, mais aussi ChatGPT, alors ça oui, et l'intelligence artificielle, évidemment, d'une manière plus générale.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
C'était Feu Chatterton, Monde Nouveau. Monde Nouveau, vraiment, vous pensez qu'on entre dans une, je sais pas, une nouvelle façon de, d'appréhender le monde? Je sais pas qui veut répondre en premier. Allez, on laisse Lionel répondre en premier, il est plus âgé. Lionel Nakache.
Alors, à la fois, je pense, il y a des éléments qui sont nouveaux. Peut-être oui, un des éléments, peut-être pour moi, les plus importants, c'est notre rapport, en fait, notre perception de l'information. Quand je parle de l'information, c'est en général. Et je pense évidemment notamment au monde numérique, notamment à tous nos smartphones, etc. Non pas pour tenir un discours de vieille barbe, etc. Je suis très content de vivre dans cette civilisation. Mais une des choses qui est déséquilibrée, c'est, je vais le dire très rapidement, la manière de laquelle on prend conscience d'une information, c'est un phénomène en deux temps. Chaque fois qu'on reçoit une information, quelle qu'elle soit, visuelle, auditive, mais aussi lorsqu'on pense, il y a un premier temps qui est un temps de traitement qui est très rapide, qui opère de manière assez intelligente, de manière totalement non consciente, on n'est pas encore conscient de ce résultat, et puis soit ça s'arrête là, soit au bout d'une fraction de seconde, à peu près 2/10 de seconde, on commence à avoir la chronométrie mentale.
On passe à autre chose ?
Non, on prend conscience de ce premier résultat d'analyse. Voilà. Et que là commence, disons, le flux de conscience qui va être alimenté par cette perception d'une image, d'une nouvelle, d'une information. Et que là, on rentre dans une temporalité subjective, donc consciente, qui va demander du temps, si on veut la maturer, la transformer, l'interpréter, d'une certaine manière prendre une perspective, une distance, l'associer à autre chose, imaginer, créer, en gros y mettre quelque chose de nous et nous laisser nous transformer par ça. Et le point où je veux arriver, c'est que aujourd'hui, il est vrai qu'on est bombardé de beaucoup d'informations dont la rapidité, la densité et le turnover font que dans ces deux temps de la perception, on est de plus en plus poussé à réagir immédiatement par des émoticônes, des messages, ce que vous voulez, sur le temps ultra précoce, de la prise de conscience très précoce, et on a un peu moins de facilité, non pas à se déconnecter, mais à laisser ce temps subjectif opérer, notre effort mental, pour arriver à métaboliser, à en faire quelque chose de plus riche.
Et le cerveau bug ?
Eh ben, bug, ou en tout cas, il y a une sorte de déséquilibre vers un mode. Il y avait un autre livre qui s'appelait L'homme raisonnable, où je parlais en fait de, un peu de l'épilepsie du monde, une sorte d'embrasement des esprits par quelque chose qui, par sa rapidité, devient souvent peu complexe, très stéréotypé et peut donner des difficultés. Donc, ça, c'est par exemple pour moi une des spécificités du temps actuel, a trait à ça. C'est pas le seul, hein, vous avez dit, c'est pas la seule spécificité, mais c'est un exemple.
Nathan Devers.
Là où je me méfierais un tout petit peu d'idée d'un monde nouveau, c'est que je crois qu'on peut dire ça de chaque époque. J'avais été très marqué par l'Ecclésiaste, qui rappelait précisément que l'histoire est cyclique, que rien n'est nouveau sous le soleil, et que dans toute génération se trouvera toujours des gens pour dire que le monde est nouveau, que c'était mieux avant, ou que ce sera mieux demain, mais en tout cas de croire qu'il y a une sorte de rupture. En revanche, je dirais que peut-être la singularité de notre époque, c'est que le monde est fragile. Il n'est pas nouveau, au sens où ce que nous vivons aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du mythe de la caverne, finalement, on lit Platon, on peut avoir l'impression de lire une fresque du monde contemporain. En revanche, il est particulièrement fragile, pour une raison très simple. C'est que le monde, c'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est pas la planète, c'est pas la Terre. Le monde, c'est quelque chose que les hommes construisent. Et construisent comment ? Construisent en essayant de bâtir, de façonner, de constituer un espace commun qui sortent précisément de l'espace simplement de mon point de vue sur le monde, de mon identité, de ma vision des choses, de ma sensibilité. Et tous les penseurs de la démocratie, tous les penseurs de la société moderne, ou tous les penseurs modernes de la société, ont vraiment insisté sur cette idée. Une société, un monde, une génération, c'est pas une juxtaposition. C'est pas, il y a des individus qui sont les uns à côté des autres, à la manière d'une sorte de série, d'une série mathématique. Non. Le monde, c'est quelque chose qui doit se co-construire et qui suppose, on parlait tout à l'heure de la violence de la philosophie, qui suppose un effort, qui suppose de se dire le monde ne se réduit pas à ce que je voudrais en voir, le monde ne se réduit pas à ma vision, le monde ne se réduit pas à mes désirs, le monde ne se réduit pas à mes projections. Le monde, c'est quelque chose qui est précisément ce qui va me permettre, c'est la condition de possibilité de l'habitation avec autrui. Et j'ai l'impression que dans la société et particulièrrement dans nos démocraties, ce système-là de construire le monde avec la polarisation du débat, avec l'explosion de populisme, avec les fièvres identitaires de partout, avec la poussée des extrêmes, avec la bataille antidémocratique qui est menée aux États-Unis, qui est menée en Europe, qui est menée un peu partout, eh bien que c'est l'idée même de monde qui est attaquée. Et je ne parle même pas de réchauffement climatique ou de catastrophe climatique quand je dis cela. C'est l'idée même de la possibilité qu'on puisse essayer de co-construire un monde. Et ça me semble quand même être une des singularités de notre époque.
Patrick Modiano, c'était ici même sur France Inter au micro de Sonia De Villers.
Au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une espèce d'approche, on peut voir 20 ans avant, puis après ça s'agrandit 30 ans, 40. Et évidemment, au bout de 50 ou 60 ans, ça devient ça devient assez impressionnant de voir les changements et cette espèce de distance dans le temps, ça devient
vertigineux.
Le passé devient intemporel à un moment donné. C'est pas un problème de nostalgie ou d'essayer de retrouver. C'est que le passé, c'est pas qu'il se fige, mais il devient, avec ce phénomène de cette lumière en astronomie comme ça, cette image de l'étoile qui est morte et qui projette, que la lumière est projetée, c'est très curieux parce que il n'y a plus de passé, il y a une sorte de temps, d'intemporalité, de temps, ça flotte dans une sorte d'intemporalité.
Patrick Modiano, dont vous dites, Lionel Nakache, que c'est l'écrivain du GPS cérébral. Alors ça, je veux dire, ça m'a vraiment fait sourire.
Bah oui, mais alors ça nécessite quelques explications.
Ah bah oui, évidemment.
Voilà, en très rapide, et c'est drôle, parce que je convoque souvent l'œuvre de Modiano, en fait, même dans des cours, en fait, des cours de neurosciences assez fondamentales. Donc, en 2014, il y a un prix Nobel qui a été remis, comme chaque année.
De médecine.
Alors, il y a le prix Nobel de physiologie et de médecine, qui a été remis, en fait, à 3 chercheurs.
C'était en 2014.
Exactement, qui ont découvert, en fait, vraiment, là, c'est pas un abus de langage, les bases cérébrales de notre capacité à nous repérer dans l'espace, à nous représenter l'espace. Et en gros, on peut dire, vraiment, c'est la découverte du GPS cérébral, qui est lové dans nos hippocampes et à côté dans le cortex entorhinal. C'est une histoire scientifique fascinante, on peut le dire vraiment.
C'est une des plus grandes découvertes.
Oui, on peut dire qu'une des très grandes découvertes des neurosciences cognitives de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est celle-ci. C'est en fait, on arrive presque à commencer, et je me tourne vers Nathan, mais à donner chair presque à l'incarnation biologique de ce que Kant appelait cette modalité de la sensibilité a priori, pure a priori, qui est la représentation de l'espace. On commence à toucher sa base biologique et d'une manière absolument fascinante. Et ce qui m'étonnait, c'est que la même année, qui était précisément le prix Nobel de littérature et Cocorico en plus en France, c'était Patrick Modiano. Ouais. Et Patrick Modiano, quand vous êtes un lecteur ou une lectrice de Patrick Modiano, en tout cas en ce qui me concerne, il y a beaucoup, évidemment, peut-être la plupart des romanciers convoquent la mémoire subjective individuelle, mais il est très rare, ou en tout cas il est moins fréquent, que cette mémoire subjective, cette temporalité interne subjective, elle soit étroitement associée aux déambulations des personnages. Et la place de l'Étoile, rue des Boutiques Obscures, tous les personnages de la plupart des personnages de Modiano, vous êtes à Paris, rue Boileau, vous êtes à côté de Perrer, vous êtes à Cimiez, à Nice. Donc, je trouvais que c'est le romancier du GPS cérébral, parce qu'il manque un ingrédient. Ce GPS cérébral, il nous sert pas seulement à savoir nous orienter dans l'espace.
Je sais pas trop s'il a le sens de l'orientation.
C'est peut-être pour ça que ça l'intéresse. Mais peut-être le point d'arrivée, c'est que ce GPS cérébral, il ne nous sert pas uniquement à nous orienter dans l'espace, mais en fait, il nous sert également à nous souvenir de ce que nous étions en train de vivre lorsque nous étions là où nous étions. Autrement dit, ce qu'on a découvert, et à mon sens, c'est une des plus grandes facettes de cette découverte, c'est que notre mémoire subjective, la mémoire des épisodes de notre vie, elle a un ancrage spatial extrêmement profond. Et c'est drôle parce que parmi les philosophes, par exemple Bergson, s'opposait à ce qu'il appelait la spatialisation du temps subjectif, de dire le temps, c'est pas de l'espace, c'est pas une coordonnée avec une métrique, c'est autre chose. Et bien d'une certaine manière, alors c'est pas le même temps que celui que Bergson critiquait, mais on commence à rentrer dans une chaire de la temporalité subjective qui semble partager des liens tout à fait insoupçonnés avec notre capacité à créer des espaces et à déambuler dans des espaces. Et d'où Modiano, voilà.
Il connaît quand même pas mal les philosophes, hein, votre papa.
Bah oui, plus
Nathan Devers, non ?
Oui, plus que pas mal.
Plus que pas mal, hein, beaucoup.
Oui, et mon père a ce qui m'a toujours marqué dans tes écrits, dans tes recherches, c'est précisément le fait, je dirais, d'avoir voulu comme dans un compositeur fait de la musique avec des partitions comme ça, il y avait comme trois partitions séparées et parallèles. D'une part, là, c'est la recherche scientifique, de l'autre, la dimension philosophique des problèmes, et troisièmement, un ancrage, c'est un autre sujet, mais même aussi dans une réflexion entre guillemets théologique ou spirituelle, imprégnée notamment du Talmud. Mais par exemple, il y a un livre que tu as écrit qui est celui qui m'a le plus marqué. c'est ton livre qui s'appelle L'Apologie de la discrétion, ou qui interroge précisément un concept qui est à la base un concept mathématique, un ensemble discret ou un ensemble continu en maths, c'est quand on peut séparer des nombres de manière comme avec des coupures, ou quand au contraire ils sont 1,111, 112, etc., et que donc on peut pas les séparer parce que c'est continu, que ça coule en un sens. Et à partir de là, tu fais toute une réflexion presque psychologique sur la nature de la conscience qui est constituée d'atomes, et puis une réflexion même ensuite politique sur le fait qu'une société, c'est jamais un bloc, mais qu'il y a toujours une irréductibilité des individus. Et c'est vrai que si tu m'as transmis quelque chose, et si à mon avis il y a quelque chose, enfin plusieurs choses, mais une chose qui est importante, et qui manque sans doute aussi à la manière dont la philosophie est enseignée, c'est le fait que la philosophie et les sciences ne sont pas autonomes ou indépendantes. Que la science n'avance jamais, ne progresse jamais, ne réfléchit jamais indépendamment de réflexions philosophiques. Qu'elle le sache ou non, la science est toujours philosophique, et inversement, la philosophie serait dans une totale illusion si elle croyait qu'elle pourrait comme ça se développer dans une tour d'ivoire en étant uniquement mue par la connaissance de l'histoire de la philosophie ou de la littérature, etc.
Oui, de la même manière, vous pensez aussi, je crois, je ne sais pas si vous allez dire si je me trompe, mais qu'il faut réconcilier en quelque sorte littérature et philosophie.
Littérature et philosophie, et puis littérature, philosophie et science. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Moi, par exemple, dans la formation philosophique que j'ai eue en France, il y avait une possibilité d'avoir des enseignements de philosophie des sciences ou d'histoire des sciences si on voulait, mais enfin, c'était pas obligatoire. Et c'est vrai, je crois que c'est une grande lacune. Et quand on regarde dans l'histoire de la philosophie, les questions que la philosophie s'est posée, c'était toujours des questions qui étaient voisines de celles des sciences, quand c'était pas d'ailleurs les mêmes. Quand on lit la correspondance de Descartes ou de Spinoza, ils s'intéressent pas tellement à ce que pouvait, à une note de bas de page d'Aristote, il y en a pas, mais ils s'intéressent davantage à des recherches qui sont faites par tel ou tel chimiste, tel ou tel physicien, tel ou tel biologiste. Et c'est ça, si vous voulez, à mon avis, le cœur de ce qui doit être davantage repensé aujourd'hui, cette unité, ce dialogue entre les sciences et la philosophie.
Lionel Nakache.
Je rebondirai, évidemment, c'est une sorte de discussion familiale ouvert sur France Inter, ce qui est assez vertigineux.
Ça doit être pas mal, hein, les déjeuners ou les dîners de famille chez vous. Bon, ça doit voler assez
bien,
haut.
Mais je suis profondément d'accord avec ce qu'a dit Nathan. Et vous demandiez également qu'est-ce qui se passe de nouveau. On peut espérer qu'une des aspects, une des facettes aussi nouvelles de ce monde aussi qui vient, là, dans lequel on... C'est effectivement, il y a des cycles comme ça dans l'histoire. Mmh. Et c'est vrai que, en tout cas, personnellement, il y a une certaine attrait pour cette philosophie du XVIIe siècle, des penseurs qu'on a évoqués, pour lesquels les liens entre ce qu'on appelle aujourd'hui la science et la philosophie étaient assez proches. Et à vrai dire, vous savez, mon doctorat de sciences, et donc au niveau international, une thèse de médecine, c'est MD, quoi, docteur en médecine, et puis vous avez le PhD. Et le PhD, en fait, c'est la thèse de science, mais la thèse de science, ça veut dire docteur en philosophie. Alors, docteur en philosophie, on parle de la philosophie naturelle, mais je veux dire, je rebondis sur ce qui n'attend, c'est qu'il y a des périodes de l'histoire, et pas seulement au XVIIe siècle, avant, et aussi aujourd'hui, dans lesquelles il y a une possibilité d'interféconder la science et la philosophie. Et je reprendrai ce qu'a dit Nathan. Les scientifiques ont tous des concepts en tête. Et ces concepts, ils ont une très vieille histoire philosophique, scolastique, parfois théologique, etc. Et il y a plein de pièges qui sont associés à ça. On peut être dualiste sans le savoir, etc. Autrement dit, évidemment que les scientifiques ont besoin d'une formation de nature philosophique et inversement. Mmh. Et donc cet enrichissement, je crois qu'on peut fonder l'espoir, parce qu'il existe aussi déjà, qu'il y ait des liens renouvelés entre philosophie et science. Et une fois de plus, c'est comme ce qu'on disait un peu sur une autre modalité entre le subjectif et l'objectif, non pas que l'un soit subjectif, l'autre objectif, mais qu'on peut remettre en tension ces modalités du savoir pour arriver à vraiment éclairer des questions qui sont profondes. Et que, de ce point de vue-là, ça ne serait pas un retour en arrière, ça ne serait pas annuler aussi toute la richesse de la philosophie post-17e, mais c'est d'arriver à refonder des liens féconds, mais qui demandent aussi des efforts des deux côtés pour arriver à s'entendre et à discuter.
Mais la construction, justement, de ce qu'on appelle ici là, une subjectivité, c'est un édifice, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué qui trouve ses sources à droite et à gauche. Et vous, Lionel Nakache, on voit bien que vous avancez aussi, vous mettez en avant votre amour pour la littérature, pour le cinéma. Tout ça, ça permet des associations libres, des superpositions d'idées, ouais. Et c'est donc la construction d'une subjectivité.
C'est la construction d'une subjectivité parce que, évidemment, il y a des moteurs dans les deux directions. Ça veut dire que pour comprendre, vous disiez se comprendre et se connaître, on a besoin à la fois de faire un double mouvement, de rentrer à l'intérieur, donc parce qu'on n'échappe pas à cette prison subjective de la conscience subjective individuelle, mais en même temps, pour vraiment la connaître, parce qu'elle n'est pas transparente à nous-mêmes, on a besoin d'en sortir. Et une des façons d'en sortir, et celle que moi j'aime beaucoup utiliser, je ne suis pas le seul, c'est un peu une sorte d'expertise ou d'art de la collision, c'est de faire se cogner des choses qui sont très différentes. Et parce que souvent, dans ces confrontations, ça va vous permettre de dépasser les limites de votre créativité, les limites de votre imagination, pour arriver à rendre transparentes ou visibles des choses que vous n'étiez pas capable de percevoir.
Est-ce qu'on peut, surtout si on le connaît bien, lire dans la pensée de quelqu'un d'autre ?
Alors, de quel point de vue on peut le faire déjà de manière comportementale, vous savez, il y a un domaine en psychologie qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est qu'une des facultés sociales, cognitives, sociales, de la cognition sociale, qui est essentielle dès la naissance, et souvent même avant la naissance, c'est que lorsque nous interagissons, comme là tous les trois, eh bien, nous sommes également en train de calculer un modèle interne, de votre propre esprit, de celui de Nathan et du mien. Et c'est comme ça qu'on arrive à se dire, est-ce que la personne fait attention? Est-ce qu'elle se moque de moi? Est-ce qu'elle me ment? Etc. On peut se tromper ou pas, mais on construit un modèle interne de cette capacité à pouvoir rencontrer l'autre. Mmh. Et donc, cette dimension-là est essentielle, oui.
Alors, on parlait du tragique de la vie. Il y a une technologie qui est tragique, en tout cas, selon vous, Lionel Nakache, c'est...
ChatGPT, Adam, 19 ans, jeune courtier en patrimoine, l'utilise pour tout.
Pour répondre à des mails, je demande à ChatGPT de me créer une réponse. J'utilise pour énormément de questions. Quand j'ai mal à la tête, je demande à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Voilà. Si jamais je fraude le métro, qu'est-ce que je risque, par exemple?
Chez les jeunes, ChatGPT a remplacé Google. Ils s'en servent principalement pour trouver des infos en ligne, tout type d'infos.
Autre exemple.
Zinedine, 20 ans.
J'étais amoureux d'une fille. Je voulais savoir comment l'aborder, je lui ai demandé à ChatGPT. Ce qu'il m'avait suggéré, pour le coup, c'était d'aller la voir et de lui proposer une clope. Parce qu'elle a fumé dans ma description, du coup, il m'avait proposé de lui proposer une cigarette pour aller plaire à cette fille.
Pour sa fille, en 22 ans, ChatGPT, c'est presque devenu obligatoire.
Mais 18-25, on n'a pas le choix de s'y mettre. Et c'est un gain de temps pour tout. Et même, ça nous évite de demander à tout le monde, etc.
Et tu pourrais faire ça aujourd'hui ?
Je pourrais faire ça, il n'y avait pas avant. Mais je prendrais plus de temps pour plein de choses, j'embêterais des gens.
Comme Saphir, près d'un jeune sur trois utilise aussi une IA pour prendre une décision d'achat et un jeune sur quatre pour l'aider à rédiger un post sur les réseaux sociaux.
C'était un reportage effectué par la rédaction de France Inter qui a été diffusé en janvier dernier. Technologie tragique, écrivez-vous, dites-vous, Lionel Nakache, ça a quelque chose de totalitaire ?
Oui, en tout cas de tragique, je jouais là aussi avec le mot. C'est qu'en fait, je voulais revenir à l'origine vraiment du tragique, de la tragédie. Évidemment, ce qui caractérise une tragédie, c'est que le destin des personnages qui vont la composer, en fait, est écrit d'avance. Et évidemment, toute la richesse et la force, la puissance de l'art tragique, c'est que quoi que fassent les personnages, ils essayent de se dépatouiller dans tous les sens, mais ils ne pourront pas échapper à un destin qui est déjà écrit. C'est ça le tragique. Et pourquoi, du coup, j'utilisais tragique? Parce que moi, je suis pas un expert d'IA, mais évidemment, en m'intéressant beaucoup plutôt à l'intelligence naturelle, évidemment, j'ai beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup de lectures sur l'IA, et notamment, il y a une branche de l'IA qu'on appelle... qu'on appelle les modèles d'intelligence artificielle qui sont neuro-inspirés, c'est-à-dire qui essaient explicitement de construire des modèles in silico, donc des modèles informatiques, qui vont reproduire certaines des propriétés que nous avons comprises de la physiologie du cerveau. Par exemple, les réseaux convolutifs d'apprentissage profond dont Hinton a eu un prix Nobel, Yann LeCun est un des créateurs et Benjo au Canada, eh bien ces modèles-là, qui sont extrêmement puissants et dont ChatGPT est une émanation, sont des modèles qui reproduisent l'architecture du cerveau, pas intégralement, mais certaines des propriétés. Et on pourrait en parler longtemps, c'est fascinant. Alors, là où je voulais en arriver, c'est que le modalité d'apprentissage d'un système tel que ChatGPT, ces modèles génératifs de langage extrêmement performants, c'est qu'en fait, ces modèles sont entraînés en entraînant chacun de ces algorithmes avec un corpus de texte abracadabrantesque. Et la performance qui va permettre d'ajuster les paramètres, les milliards de paramètres, l'équivalent des poids synaptiques un peu d'un réseau, pour arriver à atteindre cette performance, c'est que, étant donné une phrase qui est livrée, l'algorithme doit prédire le mot d'après. Autrement dit, les fonctions initiales, les modalités d'apprentissage sont basées sur la capacité à pouvoir reproduire, on pourrait dire d'une certaine manière, avec une certaine perfection, du déjà dit, du prédit, du quelque chose qui a déjà été... en fait, formaté. Et c'est pour ça, si vous demandez à ChatGPT de vous amuser à lui demander d'écrire un poème avec tel style, le style de Victor Hugo ou un texte à la Virginia Woolf, il pourra vous produire souvent, pas toujours, mais parfois des choses assez époustouflantes. Et donc là, ce que je trouvais intéressant, pas du tout uniquement pour le critiquer, mais cette dimension tragique, c'est que ChatGPT nous permet de produire et d'avoir un rapport au langage, un langage qui soit enfermé dans une sorte de totalité, plus qu'un totalitarisme, mais une totalité, d'arriver à produire quelque chose qui est déjà dit. Et ce qui, moi, me fascine le plus, c'est que face à ça, et face à ces prouesses qui étaient assez insoupçonnées, il faut quand même le dire, ce qui participe de l'effet de ChatGPT, c'est que je trouve ça assez amusant de prendre conscience de tout ce qui, dans nos actes de langage à nous, qui ne sommes pas des algorithmes génératifs, Encore. Parfois, mais parfois ça apparente. Le petit chat est mort, bonjour madame, au revoir monsieur. Voilà. Et donc de prendre conscience que dans nos actes de langage, il y a peut-être des saillies d'un peu plus de liberté ou de créativité, mais aussi des pans entiers de choses qui ne sont pas très très loin de ces modèles qui reformatent du déjà dit ou du déjà pensé ou du déjà formulé. Quoi.
Liberté, avez-vous dit, est-ce que le monde numérique, Nathan Devers, d'une manière générale, ne menace pas nos libertés?
Les révolutions numériques, qui sont plurielles, et l'intelligence artificielle en est un des aspects, absolument, en soi, je ne pense pas qu'elle soit une menace pour la liberté. Le débat qui existe aujourd'hui, on entend beaucoup une sorte de petite musique nous disant que l'intelligence artificielle va par exemple déshumaniser, va enlever ce qu'il y a de propre dans l'esprit humain. Je peux donner un tout petit exemple, mais c'était notamment les grèves des scénaristes à Hollywood il y a un peu plus d'un an, mais qui étaient assez fascinantes. Ça n'était jamais arrivé depuis plusieurs décennies. Donc les scénaristes des grandes plateformes et des grandes productions hollywoodiennes qui s'inquiétaient, à juste titre, hein, de se dire, est-ce qu'on va peut-être être remplacé demain par des IA qui écriront les scénarios à notre place. Il est évident que toute révolution technologique suppose un bouleversement des champs professionnels. Et évidemment que le monde artistique, enfin tous les mondes professionnels de l'esprit, vont évoluer. En revanche, l'idée selon laquelle une intelligence artificielle pense, et donc elle fait concurrence vraiment à ce qu'il y a de penser en l'être humain, c'est une idée qui a l'air un peu futuriste, comme ça aujourd'hui, en 2025, mais qui est en fait extrêmement has-been, qui date des années 40, oui, de ça, la cybernétique, ou des premiers philosophes de l'esprit dans les années 1956, 60, 65. Et si vous voulez, ça fait bien longtemps quand même qu'en philosophie de l'esprit, on a compris que l'intelligence artificielle, même si elle peut battre l'esprit humain sur la conscience fonctionnelle, sur ce que tu disais, les mots à prévoir, etc., bon, mais qu'en revanche, elle n'a pas de conscience qualitative ou phénoménale. Par exemple, elle n'a pas ce qu'on appelle en anglais un feeling. Et ça, évidemment, quand vous écrivez un scénario d'une série, par exemple, c'est évidemment, ou quand vous faites un métier quel qu'il soit qui sollicite une réflexion, évidemment que la dimension de feeling, elle est importante, qu'elle est irréductible et qu'elle sera peut-être davantage mise en lumière, mise en relief dans les années à venir.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Michael Kiwanuka, The Rest of Me.
Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that dark place. Lead me to the light. You don't seem to mind standing in the rain. Though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me be your last. There's nothing left to gain. Lord, I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Can't stand the sound of silence, it's so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. Behind, yeah. Your heart right next to me. The rest of me behind, behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time, this time.
Le colonialisme est aussi une manière de poser une chape de plomb sur le monde, de décider qu'il y a une seule civilisation, une seule région du monde qui est porteuse naturellement de l'universel et qu'elle a à se s'allonger de tout son long, si vous voulez, sur le reste de l'humanité. Elle doit, en quelque sorte, absorber dans sa propre substance, dans sa propre universalité, le reste du monde. La décolonisation, c'est restituer au monde son pluralisme. Mais une fois que cette restitution est établie, et d'ailleurs en même temps qu'on décolonise, il faut également universaliser, c'est-à-dire être ensemble orienté vers un même horizon d'universalité. Et c'est là qu'en effet, il nous faut revenir contre un relativisme qui dit au fond, à chaque culture est enfermée dans son contexte propre. Et ces valeurs ne se définissent qu'à l'intérieur de ce contexte. Il faut qu'il y ait un au-delà des cultures. Mais cet au-delà des cultures, ce ne sera pas une culture qui se décrète naturellement au-dessus de toutes les autres. Ce sera précisément la projection que toutes les cultures ensemble feront.
C'était le philosophe Souleymane Bachir Diagne, penseur de la tolérance et de l'universalisme. Un même horizon d'universalité, il faut qu'il y ait un au-delà des cultures, dit-il. Lionel Nakache, est-ce que c'est une vision utopique ?
Utopique, mais une utopie que nous pouvons poursuivre et cultiver. Et en tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Et dans plusieurs essais, notamment. Et on revient, pour moi, à l'échelle fondamentale. C'est que pour arriver à atteindre cette utopie ou à lui rendre une possibilité, je crois qu'il y a une seule manière, c'est de ne pas renoncer à l'échelon atomique, qui doit être l'élément de référence pour moi primordial à partir duquel tout se construit. Et pour moi, cette échelle atomique, c'est pas le groupe, c'est pas une civilisation, c'est l'individu. Et on revient à cette subjectivité individuelle.
Chaque individu qui est à nul autre pareil.
Exactement. Alors, cette subjectivité, elle se construit, on l'a dit, elle est nourrie, elle est enrichie, elle évolue, etc. Donc, elle n'est pas en autarcie. Elle fait partie du monde. Elle établit des liens avec le monde. Mais je pense que la manière de laquelle on doit arriver à une coexistence d'individus qui vont être nourris par leur trajectoire de vie, leur culture, leur langage, etc., les faire coexister sans qu'ils soient ni dans la négation l'un de l'autre, ni non plus dans le sort de clone, en fait, d'être une sorte de réplique à l'identique, à mon sens, l'élément principal, c'est de ne jamais négliger la primauté, on pourrait dire presque une forme d'humanisme à la forme de Sartre, ça veut dire que l'existence de l'individu précède toutes ses appartenances, tout le reste, en fait. Et c'est pour ça, par exemple, je donne un exemple, dans les faits de société, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que quand Obama a été élu président, il y avait une poétesse noire, américaine, hétérosexuelle, qui avait composé un superbe poème,
et il y avait
une traductrice néerlandaise, blanche, non-binaire, qui avait proposé une traduction. Et certaines personnes s'étaient offusquées en disant « Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes une femme blanche, vous êtes homosexuelle ou non-binaire, vous n'êtes pas une femme noire hétérosexuelle, vous ne pouvez pas traduire. » Et pour moi, dès lors qu'on est dans ce type de violence à l'égard d'un individu, ça veut dire nier le fait qu'à l'échelon atomique, on peut être une femme blanche et décider d'épouser la cause d'une femme noire ou d'un homme noir, etc. Eh bien, cet aspect-là, pour moi, c'est la boussole, vraiment, c'est le fil rouge. C'est qu'il faut, ça n'a rien de magique, mais il faut toujours garder la primauté de l'existence de l'individu qui permet cette utopie dont vous parliez de faire coexister des différences et une coexistence, une réelle coexistence entre des gens qui ne sont pas les mêmes et qui ne pensent pas la même chose.
Voilà. Une vision du monde qui soit au-delà des cultures, Nathan Devers, comme le disait Diagne, c'est possible.
D'abord, c'est une expression absolument magnifique, aller au-delà de la culture. Je crois que en philosophie, dans la vie de manière générale, il faut jamais avoir le fétichisme, l'idolâtrie de la culture pour la culture. Et que, évidemment, je dis une banalité, mais très souvent, la culture a une sorte de prétention à donner l'impression qu'elle est intelligente en soi. Que parce qu'on a une référence. Non, la culture, c'est une construction historique, identitaire.
Et même la philo, elle peut être très dogmatique,
aussi,
et ça ne vous plaît
pas
non plus.
Et si la philosophie, c'est juste une histoire d'érudition ou de culture, ça n'a aucun intérêt, il ne faut pas en faire dans ce cas-là. La philosophie, c'est précisément, et l'existence, c'est d'aller au-delà de la culture. La réinvention de l'universalisme, ça va être, je pense, la grande affaire de notre siècle. Parce qu'on est dans une impasse.
Ce sera ça
d'une
le
part,
nouveau.
On a, oui, peut-être. D'une part, on a un universalisme abstrait, construit en Occident, que certains veulent imposer comme ça, un peu brutalement, à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres civilisations, comme si les concepts étaient interchangeables, comme si on pouvait prendre la loi de 1905 et demander à d'autres pays de l'appliquer telle quelle, ce qui n'a pas aucun sens. Et d'autre part, on a une tentation du relativisme, qui est invoquée par tous les régimes autoritaires sur la planète. Un Poutine qui nous dit « Mais attendez, vos droits de l'homme, vous les respectez pas vous-même, alors vous n'allez pas nous faire la leçon si on fait ceci ou si on fait cela. » Quelle est la troisième voie ? Comment construire une troisième voie? Comment inventer ce que Diagne appelle un universel horizontal? C'est-à-dire qui, d'une part, ne cristallise pas les valeurs d'une seule civilisation, mais qui, de l'autre, ne tombe pas dans l'écueil consistant à dire que tous les régimes politiques se valent ou que toutes les constructions culturelles se valent uniquement parce qu'elles sont des constructions culturelles. Et c'est en cela qu'il y a un universalisme profond de la philosophie, et c'est en cela que la philosophie n'est pas seulement une affaire européenne, occidentale, d'origine grecque, née en Allemagne, etc., et que c'est quelque chose qui va précisément au-delà des cultures. Mais j'ajouterais peut-être une chose, pour aller au-delà des cultures, il faut aller contre elles. Et il faut avoir aussi la violence d'une certaine forme d'affrontement vis-à-vis de la manière dont chaque culture essaye de se poser comme un absolu.
Vous acceptez qu'on lui donne le mot, qu'on lui laisse le mot de la fin ?
Absolument, avec plaisir.
Penser contre soi-même. Merci Nathan Devers. C'était donc c'est un livre que vous avez publié chez Albin Michel, dont je recommande chaudement la lecture. Et Lionel, dont je recommande chaleureusement la lecture, et Lionel Nakache, sujet es-tu là, avec un énorme point d'interrogation, c'est publié chez Odile Jacob. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup, Patricia Martin.